Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
Tous ensemble, rapports et travailleurs, c'est la grève, public, privé, tous ensemble.
Ils sont dans la rue, les salariés de la SNCF, manifestés parmi d'autres ce jeudi contre la réforme à venir de leur entreprise, censée à la fois réduire la dette considérable de l'entreprise du rail public français et surtout préparer l'ouverture à la concurrence prévue en 2019 et 2020. Avant le transport de passagers, le fret a lui aussi été ouvert à la concurrence, tout comme ce fut le cas dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications. Et quelles conséquences pour les usagers, pour les caisses publiques? Bref, la libre concurrence bénéficie-t-elle toujours aux consommateurs? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Jean-Marc Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP Europe, auteur du livre « Les impôts, histoire d'une folie française » paru aux éditions Talendier. Face à vous, Benjamin Coria, bonsoir.
Bonsoir.
Benjamin Coria, vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 13 et vous êtes coprésident du collectif des économistes atterrés. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler tout au long de cette émission de cas concrets, j'en ai cité quelques-uns en introduction, mais je voudrais commencer par vous interroger l'un et l'autre sur le concept de concurrence pure et parfaite. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement ce que ça veut dire et si vous adhérez à cette théorie ?
Oui, la concurrence pure et parfaite, c'est un outil des économistes qui suppose qu'il y ait 5 conditions sur un marché. D'abord, que les gens soient libres d'échanger sur ce marché. La deuxième, c'est qu'ils soient en situation d'égalité, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes informations. Et surtout que personne ne soit interdit d'accéder au marché. C'est-à-dire que si vous avez une étoile jaune, qu'il n'y ait pas des magasins réservés comme dans les pays communistes et tout ça, que tout le monde puisse être sur le marché, qu'il y ait une égalité sur le marché. La troisième condition, c'est ce qu'on appelle l'atomicité, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'intervenants sur le marché. La quatrième condition, c'est un peu plus compliqué, ce qu'on appelle l'homogénéité, c'est-à-dire que on sache exactement ce qu'on achète sur le marché, qu'il y ait une durabilité dans le temps des produits qui sont vendus. Et surtout, il y a une condition qui est de plus en plus importante, qui est ce qu'on appelle la fluidité, c'est-à-dire le fait que il soit assez aisé pour quelqu'un de rentrer sur le marché. Concrètement, si vous voulez, quand vous êtes une entreprise automobile, pour qu'un concurrent émerge, il faut un certain temps, parce qu'il faut construire une usine et tout ça. Alors que quand vous distribuez sur une plate internet, sur une plateforme internet, quand vous mettez en contact des gens, mais on peut recréer la même plateforme très rapidement.
On va y venir et je vais vous demander ce que vous en pensez plus en détail. Vous êtes d'accord avec cette définition, Benjamin Coria?
Oui, la définition, c'est à peu près celle-là. C'est celle des économistes néoclassiques qui en ont fait un outil. Qui est devenu très vite idéologique parce qu'on
présente ça toujours comme un peu l'équivalent de la gravité en physique.
Et voilà, parce que au nom de la concurrence, on démantèle des services publics, etc. Alors que aucune des conditions de fonctionnement du système de la concurrence pure et parfaite telle qu'elle est énoncée n'existe dans la réalité. Et ça veut dire que la réalité, elle est remplie d'entreprises pharmaceutiques qui sont abritées derrière leur monopole de brevets. On y touche absolument pas. On va même nous expliquer, sans doute, Jean-Marc Daniel, que c'est absolument nécessaire pour l'innovation. Donc, vous voyez, lorsque ça sert à fabriquer des prix astronomiques, on trouve ça très bien, qu'il n'y ait pas de concurrence. Et puis, quand on a un service public qui dessert des territoires qui sont eux-mêmes désertifiés, alors là, il faut de la concurrence. Donc, vous voyez que cet outil, il sert à tout et à n'importe quoi.
Donc, voilà, on a de l'impureté, on a de la...
Oui, juste une remarque par rapport à ce que vient de dire Benjamin Coria. La première remarque, c'est que entre la concurrence pure et parfaite, où il y a énormément d'intervenants et qui fait une pression très très forte sur les prix, et le monopole, il y a des stades intermédiaires. Et donc,
parce qu'elle n'existe pas, cette concurrence pure et parfaite,
parce que,
dans les
faits. Ce que démontre à peu près, ce que démontre de façon claire la théorie économique, c'est que plus on s'en rapproche de cette concurrence pure et parfaite, plus on a deux résultats, c'est-à-dire des prix bas et une production plus élevée, parce que quand les prix sont bas, ça donne du pouvoir d'achat à la population, et donc ça permet effectivement d'avoir davantage de production. La deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement des enjeux on a parlé de la pharmacie et tout ça, des enjeux des politiques de concurrence, puisque cette concurrence, elle est vécue à la fois comme un état normal de l'économie, et puis comme un objet et comme un objectif de la politique économique. Il y a de plus en plus de politiques économiques qui se mettent en place. Un des enjeux, c'est effectivement le temps, quand on voit apparaître un nouveau produit, pour que la concurrence se manifeste. C'est-à-dire, il y a un entrepreneur, quelqu'un qui découvre quelque chose. Benjamin vient de parler de la situation des laboratoires pharmaceutiques. Au bout de combien de temps, effectivement, on doit ou on peut faire émerger une concurrence à un laboratoire?
Mais est-ce qu'elle émerge dans ces cas-là de manière naturelle ou est-ce qu'elle est encouragée?
Alors, il y a deux cas. Il y a ce qu'on appelle la situation où il y a un véritable imitateur. C'est-à-dire, où ce sont des produits qui sont tellement évidents que les gens peuvent les imiter assez spontanément. Et puis, il y a des cas où on oblige l'inventeur à mettre dans le domaine public son invention, à dévoiler son invention. Vous avez le cas, pour résumer, vous avez le cas de Coca-Cola, c'est-à-dire est-ce que Pepsi fait de la concurrence à Coca-Cola ou est-ce que Coca-Cola a une formule qui est préservée secrètement, enfermée dans un coffre à Atlanta, qui fait que de toute façon, on ne sera jamais en concurrence avec Coca-Cola.
Benjamin Coria, je vais vous laisser répondre sur ces points.
Non, mais si vous voulez, la vraie discussion, c'est que le modèle dit de concurrence pure et parfaite, c'est un modèle purement abstrait, purement théorique, qui n'a aucun domaine d'application véritable, mais on s'en sert quand même pour promouvoir des politiques de concurrence, alors que les conditions qui font que le modèle est efficace ne sont pas réunies. Si vous voulez, il y a un truc de Brecht, qui est assez joli, qui dit le peuple a mal voté, il faut dissoudre le peuple. Bon, donc, l'économie ne correspond pas au modèle de concurrence pure et parfaite, il faut dissoudre l'économie. Vous voyez, voilà. Donc,
quelle est la théorie qui serait applicable au monde réel tel qu'il est aujourd'hui alors?
La théorie qui est applicable au monde réel, c'est une théorie dans laquelle on a une diversité d'entreprises.
Donc il faut
de
penser
taille.
En fonction des secteurs la concurrence de manière différente.
Mais bien sûr. Autant la concurrence dans un certain nombre de cas serait utile et bénéfique, autant dans beaucoup de cas, elle est destructrice.
Vous êtes d'accord avec cette idée
destructrice. Non, je ne peux pas ne pas être d'accord parce que la notion de concurrence destructrice fait partie du corpus de théorie auquel il croit.
Oui, non, mais la concurrence, elle peut être destructrice. Elle détruit effectivement la routine, elle détruit un certain nombre de gens qui s'enferment dans l'incapacité à innover.
Et donc, elle détruit des entreprises parce que, du fait de la concurrence entre entreprises, on n'atteint plus les conditions de fonctionnement satisfaisantes à la fois pour les entreprises et pour les usagers. Donc, si elle n'est pas réglementée, la concurrence, dans pratiquement tous les domaines, elle aboutit à des catastrophes.
Parlons de cas concrets, peut-être.
Parlons du chemin de fer. Parlons du chemin de fer. Au départ, on avait une situation de libre concurrence dans le chemin de fer. Mmh. Et cette situation de libre concurrence dans le chemin de fer, que préconise notre ami Jean-Marc Daniel, elle aboutit à quoi? Elle aboutit au fait que certaines dessertes rentables étaient surdesservies et que les dessertes qui ne l'étaient pas rentables n'étaient pas desservies. C'est la raison pour laquelle on a transformé d'une manière ou d'une autre le transport ferroviaire en un service public avec des contraintes pour assurer l'approvisionnement, les dessertes, etc. Bon, maintenant, on veut revenir en arrière et fabriquer des catastrophes.
Je vais laisser Jean-Marc Daniel répondre sur ce point.
Oui, deux remarques par rapport à ça. La première remarque, c'est que si les politiques de concurrence sont mises en place, c'est parce que effectivement, il y a un danger que le côté destructeur de la concurrence se reconduise à faire apparaître de nouveau des monopoles. C'est-à-dire que la concurrence sur un certain nombre d'entreprises, on voit réapparaître des monopoles. Et le monopole, lui, il est négatif pour l'économie. Parce que le monopole, c'est trois conséquences du monopole. Oui, c'est des prix beaucoup trop élevés, en général. Oui. C'est effectivement un esprit de routine. Une fois qu'on est en monopole, qu'on n'est pas défié par qui que ce soit, on se dit, mon Dieu, je garde son... Et en général, le monopole, si vous voulez, ignore complètement le consommateur.
Mais dans le cas du transport, par exemple, ce que nous expliquait Benjamin Coria sur cette idée que certaines lignes ne sont pas très rentables, mais après tout, pourquoi pas,
c'est une décision politique. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe sur les transports, c'est pour moi deux choses. La première, c'est que on pense beaucoup que ce qui a mis en concurrence la SNCF et ce qui oblige la SNCF à se réformer, c'est la concurrence des autres lignes de chemin de fer, des autres compagnies de chemin de fer. Or, elle se heurte, la SNCF, à la concurrence d'autres modalités de transport, qui sont des modalités de transport qui sont gérées par la population elle-même. Elle a commencé par essayer de limiter la concurrence du transport aérien, et donc on avait créé, parallèlement à la SNCF, une compagnie aérienne qui s'appelait Air Inter, qui elle-même était en monopole et qui elle-même était une filiale de la SNCF. Or, Qu'est-ce qui a porté atteinte au monopole effectif de la SNCF? C'est le moment où les nouvelles technologies ont permis à la population d'utiliser la route de façon partagée. Grosso modo, ce qui met en cause le statut de la SNCF, c'est autant Blablacar, le covoiturage, que
un phénomène qui existe dans d'autres pays, et malgré tout, les gens continuent à prendre le train.
Ils continuent à prendre le train, mais le train est privé. Non. Dans la plupart des pays, maintenant, on met en situation de privatisation des compagnies de chemin de fer pour qu'elles aient la capacité de réagir à cette concurrence qui apparaît.
Benjamin Correa.
Même lorsqu'il y a des trains privés, d'abord, la situation, elle n'est pas forcément très bonne, hein, du point de vue précisément de l'égalité d'accès, de la desserte des territoires, etc. Tout ceci est réglementé. C'est pas du tout la libre concurrence. Sans réglementation, on aboutirait au chaos. Donc, il faut être tout à fait clair là-dessus concernant ce point. Maintenant, en ce qui concerne la SNCF, la question qui est importante, c'est que elle est déjà en concurrence, et c'est ce que disait entre les lignes Jean-Marc Daniel. Ça veut dire que il y a de la concurrence intermodale, comme on dit. Ça veut dire que les Blablacar, les cars Macron, etc., font de la concurrence sur toute une série de parcours locaux, hein, de parcours régionaux. C'est pas connu du grand public, mais le fret est en concurrence.
Donc le transport de marchandises.
Le transport de marchandises et le transport international est en concurrence. Alors, sur le fret, ça, je voudrais quand même dire une chose, c'est que l'une des raisons pour lesquelles la SNCF est en difficulté, l'une des raisons, hein, il y en a bien d'autres, c'est qu'ils ont perdu beaucoup du marché du fret et pour du transport de marchandises. Et pourquoi? Parce que les transporteurs routiers ne payent pas leurs infrastructures, elles sont fournies à gratuitement par les pouvoirs publics.
Alors que la SNCF, quand même.
Comment?
Ils payent des péages quand même.
Non, pas du tout. Trois fois rien.
Ils payent la taxe sur l'essence. Ils payent
Non. Je parle des infrastructures. La SNCF aussi, elle paye son énergie. Non. On peut pas discuter le fait que le transport routier est mis gratuitement à disposition des transporteurs routiers, alors que la SNCF, elle paye son transport à une entreprise rivale qu'on a constituée.
Ça veut dire que
l'ouverture
de la concurrence a été faite pour les trains, mais les rails, toutes les infrastructures sont toujours nationalisées et possédées par l'État. C'est ça que vous nous expliquez?
Non, pas du tout. En fait, on a scindé la SNCF en deux et on l'a forcé à payer à l'un de ses actifs, le réseau ferré, de l'argent chaque fois qu'elle l'utilise. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est très important, qu'il faut bien comprendre, c'est que si on fait intervenir les coûts indirects, hein, c'est-à-dire si on fait intervenir les éléments écologiques, ce qui est absolument essentiel, le transport routier pollue à peu près 30 fois plus que le transport ferroviaire. Mais on ne compte pas les dégradations provoquées par le transport routier.
Jean-Marc Daniel, sur ce point précis, sur le coût environnemental.
Il y a concurrence déloyale.
Non, mais deux éléments par rapport à ça. Le premier élément, c'est que, encore une fois, la concurrence qui a émané du transport routier, elle est liée à une attitude de la population. C'est la population qui veut utiliser la route. C'est la population qui a créé Blablacar.
Je voudrais qu'on avance un petit peu sur ce point de l'environnement.
Et sur le problème de l'environnement, et effectivement, la SNCF, elle utilise de l'électricité. Le problème de l'électricité, c'est est-ce que l'électricité est totalement, sur le plan environnemental, est totalement neutre?
Je parle du CO2, hein.
Il y a le CO2, mais pour construire les centrales nucléaires, il a fallu utiliser du béton, qui est un des endroits où on produit le plus de CO2. Et ensuite, on nous explique qu'il y a un problème de gestion des déchets nucléaires, qui est aussi un problème environnemental.
Ça, c'est pas le problème de la SNCF, ça. Le train consomme de l'électricité. Si cette électricité, elle est fabriquée de manière nucléaire, ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est pas la responsabilité du transport ferroviaire.
Le transport ferroviaire n'est pas sur le plan
écologique. On pourrait prendre d'autres exemples où la concurrence favoriserait un transport ou un produit qui serait moins écologique qu'un produit qui serait...
Il y a deux choses à voir là-dedans. Ce qu'on appelle les externalités, la pollution et tout ça, c'est pas un problème de concurrence ou de non-concurrence. Si l'État veut intervenir, il fixe ce qu'on appelle une fiscalité écologique et c'est pas un problème de concurrence ou de non-concurrence.
Les deux modes de transport sont dans une situation inégale vis-à-vis de,
non,
de,
c'est pas vrai,
de
ça.
Quand ça concerne leurs coûts, parce que certains provoquent des dégradations et ne les payent pas, d'autres au contraire sont favorables à l'environnement et n'en tirent aucun bénéfice. Donc je veux dire, s'il y avait une taxe,
il y a une taxe sur
l'essence, ça irait, mais il n'y est pas.
Il y a une taxe sur l'essence, qui a été créée justement quand elle a été créée en 1928 pour rétablir la concurrence entre la route et les chemins de fer.
Il y a eu la tentative d'installer l'écotaxe, hein, qui était le moyen précisément pour les transporteurs routiers de payer une partie des dégâts qu'ils provoquent, et ils ont été capables par lobbying d'annuler l'écotaxe.
Oui, mais il y a encore une TICPE.
Est-ce qu'on peut parler des usagers dans ce débat? Parce que c'est quand même le cœur du sujet. Oui. Le fait qu'il y ait cette concurrence, qu'est-ce que ça veut dire pour les usagers eux-mêmes?
Ça veut dire deux choses pour les usagers. D'abord, quand il y a de la concurrence, ils ont le choix. Que ce soit pour les transports, on l'a vu sur les télécoms. C'est-à-dire que l'ouverture à la concurrence a permis effectivement aux gens de choisir leur opérateur. Et le fait d'avoir choisi leur opérateur a eu comme conséquence de faire baisser les prix. Je rappelle la célèbre formule de Arnaud Montebourg en 2012, au moment de l'élection présidentielle, qui avait dit « Monsieur Xavier Niel a fait plus pour le pouvoir d'achat des Français que Monsieur Sarkozy en 5 ans. »
Xavier Niel, c'est le président de Free, qui était le quatrième opérateur à intervenir sur ce marché.
Parce qu'il a dit ça qu'il avait raison. Hein.
Mais et pourtant, c'est ce qui s'est effectivement passé. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Français a été amélioré dans le domaine des télécoms par l'introduction d'un nouvel opérateur qui était en concurrence. Donc, sur les chemins de fer, on a vu exactement la même chose en Italie. C'est-à-dire qu'en Italie, le fait d'avoir introduit de la concurrence fait que les prix ont baissé. Dernier exemple, la SNCF qui gère en ce moment les transports en commun du Massachusetts a eu une politique dans le Massachusetts pour obtenir l'appel d'offres, pour obtenir le marché, a eu une politique de baisse des prix assez forte, avec une rigueur de gestion très très intéressante quand on compare à ce qui se passe en France, et dans laquelle elle est à la fois capable de répondre aux attentes en termes de délai, c'est-à-dire elle n'a plus aucun retard, et en termes de prix.
Benjamin Correa.
Quand on parle de concurrence, il faut regarder deux choses. Il faut regarder, un, la nature du service offert, deux, le prix. Bien. En ce qui concerne les transports ferroviaires, la nature du service offert, c'est quoi ? C'est le fait que un certain nombre de lignes qui sont pas nécessairement rentables ou qui sont même nécessairement déficitaires sont offertes ou pas. Alors c'est sûr que si on ouvre à la concurrence, je répète, on va revenir à la situation chaotique qui a transformé, qui a exigé de fabriquer un service public. À savoir une situation, comme on a en Italie, une situation dans laquelle, sur les lignes à grande vitesse, l'équivalent des lignes à grande vitesse, l'ouverture à la concurrence s'est traduite par le fait, effectivement, qu'il y a une baisse des prix. Et le résultat, c'est quoi? C'est que une partie de l'argent qui était gagné sur la ligne à grande vitesse n'est plus mis dans les transports régionaux et locaux.
Il est mis dans la poche des Italiens, et c'est une bonne nouvelle pour les Italiens.
Les Italiens riches qui se transportent en TGV entre les grandes villes. Les Italiens pauvres qui vivent dans les régions ont vu leur système se dégrader complètement parce que l'argent qui venait des lignes riches ne leur est plus venu.
Est-ce que la libre concurrence a tendance à favoriser les grandes villes?
On ne peut pas. Oui, bien sûr. On ne peut pas faire de la libre concurrence lorsque un certain nombre de lignes sont déficitaires et ne peuvent exister que s'il y a un transfert de la part des lignes bénéficiaires. Donc ça, c'est le principe de base des entreprises réseau, donc de la SNCF. Donc ça, c'est le premier point. Donc on peut éventuellement baisser le prix sur les lignes les plus fréquentées et les plus riches, mais ça veut dire que soit il augmente considérablement sur les lignes.
Les petites lignes, soit il y a un manque d'investissement, ou elles ferment.
Soit elles ferment.
Je vais laisser répondre Jean-Marc Daniel. Oui, il reste moins d'une minute.
Oui, juste sur l'exemple italien, ce que dit Benjamin Correa n'est pas tout à fait exact. Oui, parce que le fait d'avoir baissé considérablement le prix sur les lignes TGV a fait que ça a augmenté considérablement la fréquentation de ces lignes. Et donc, les recettes reçues par le système ferroviaire ont été en augmentation par rapport à ce qui était précédemment.
Il n'y a plus de transfert vers les lignes locales. Et ensuite, absolument désolé.
Quand on a une situation qui est une situation où on exige que certaines lignes soient desservies, à partir de ce moment-là, au moment où on fait l'appel d'offres, on définit, où on met les gens en concurrence, on définit les conditions qu'elles doivent remplir pour remplir l'appel d'offres.
Donc et on en reste à cette idée d'une concurrence qui ne serait jamais vraiment libre et parfaite, une concurrence qui est délimitée par un acteur étatique.
Mais ça dépend du type d'activité. Mais encore une fois, sur les télécoms, clairement, c'était une concurrence qui était accrue par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Et comme le dit Arnaud Montebourg, ça a amélioré le pouvoir d'achat des Français.
Mais c'est pas ça qui a amélioré le pouvoir d'achat des Français dans les télécoms, c'est l'arrivée des nouvelles technologies, c'est l'arrivée du mobile. difficile. Hein.
On va en rester sur ce désaccord. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Europe. Benjamin Coria, professeur d'économie à l'Université Paris 13, co-président du collectif des économistes atterrés. Merci à Florence Pons, Sigrid Azeroual, Valentin Vaner, toute l'équipe du débat du jour. À retrouver, comme tous les jours, sur Facebook et Twitter.